Chapitre 29.
Madame, vous êtes blessée ?
L'inquiétude crispait la voix basse du Séon. Sa reine voulut s'essuyer les yeux, mais elle pleurait encore.
Non,
dit-elle entre deux sanglots muets.
Je vais bien.
De toute évidence peu convaincue, Achée décrivit un demi-cercle autour d'elle afin de l'examiner. Des échoppes et des maisons passaient à toute vitesse derrière la vitre du carrosse qui les conduisait au palais royal. Et Hondel, le propriétaire de la voiture, était resté au portail.
« Madame, demanda le Séon avec franchise, qu'est-ce qui ne va pas ?»«
J'avais raison, Achée !»
Malgré ses larmes, elle essaya de rire de sa propre stupidité.
« Je devrais être contente. Je ne m'étais pas trompée à son sujet. »«
Vous parlez du dénommé Esprit ?»
Elle hocha la tête, avant d'appuyer sa nuque au dossier de la banquette et de contempler le plafond du véhicule.
Il privait certains individus de nourriture.
Tu aurais dû les voir. La famine les avait rendus fous.
Ses guerriers les empêchaient d'accéder à l'esplanade. Mais ces pauvres gens ont dû finir par avoir trop faim et par se battre.
Je n'imagine même pas comment ils ont fait. Ils n'avaient ni armure ni arme, juste leur faim.
Et il n'a même pas essayé de nier.
Il est resté là, à regarder ses plans partir à volo. Un tas de nourriture mis de côté pour ses favoris à ses pieds. De frustration, elle plaqua ses deux mains sur sa figure.
« Pourquoi suis-je si bête ?»
Le Séon, soucieux, brilla plus fort.
« Je savais ce qu'il tramait. Qu'est-ce que cela peut me faire de savoir que j'avais raison ?»
La jeune femme prit une profonde inspiration qui lui resta coincée dans la gorge. Achée aussi avait raison. Elle s'était trop préoccupée d'Elantris et d'Esprit. Elle avait laissé un attachement naissant prendre le pas sur ses soupçons. Le résultat ? Un désastre. L'aristocratie réagissait face à la misère et à la souffrance qui prévalait dans la cité. Leurs vieux préjugés faiblissaient. Le principe Korati de tolérance prouvait son influence. Mais à présent, tout ce que les nobles se rappelleraient, c'était qu'on les avait attaqués. Sa reine ne pouvait que remercier Domu qu'aucun d'eux n'ait été blessé. Des cliquetis métalliques très reconnaissables mirent fin à ses réflexions. Reprenant contenance de son mieux, la jeune femme passa la tête par la fenêtre du carrosse pour voir d'où venait ce vacarme. La voiture croisa deux files d'hommes en côte de maille et livrée rouge et noir, la garde personnelle de Yadon. Ils marchaient sur Elantris. Un frisson glacé la parcourut à la vue de ses combattants, à l'air sombre.
« Idos Domu, »
souffla-t-elle. Les yeux durs, ils paraissaient prêts à tuer, à massacrer une population entière. Le cocher commença par refuser d'aller plus vite, mais il était difficile de résister à une princesse du Théode entêtée. Ils arrivèrent bientôt au palais et sa reine sauta à terre sans même attendre qu'on vienne lui déplier l'escabeau. Sa réputation se répandait au sein du personnel de maison. La plupart des gens s'écartaient dès qu'ils la voyaient arriver à grands pas dans un couloir. Même les gardes en poste à la porte du bureau de Yadon s'habituaient à ses manières et ils se contentaient désormais de pousser un soupir résigné avant de lui ouvrir. Le roi fit grise mine en la voyant.
« Quoi qu'il puisse y avoir, cela devra attendre. Nous avons une urgence qui… »
Elle plaqua si violemment ses mains sur la table de travail du souverain que les pieds grincèrent et qu'un porte-plume se renversa.
« Au nom de Domu, qu'est-ce qui vous prend ?»
Yadon se leva, rouge de colère réprimée.
« On a attaqué des membres de ma cour. J'ai pour devoir de réagir. »«
Ne me parlez pas de devoir, Yadon !» Vous cherchez un prétexte pour détruire Elantris depuis plus de 10 ans. Tout ce qui vous en a empêché jusqu'à présent, c'est la superstition de votre peuple.
Venez-en au fait, dit-il froidement.
Je ne serai pas celle qui vous fournira ce prétexte. Vous allez rappeler vos troupes.
Vous, plus que toute autre personne, devriez apprécier la rapidité de ma réaction, princesse. C'est votre honneur que cette attaque remet en cause.
Je suis tout à fait capable de défendre mon honneur, Yadon. Faire donner la troupe revient à renier tout ce que j'ai accompli ces dernières semaines.
C'était une lubie absurde, de toute façon.
Le souverain laissa choir une liasse de papier sur sa table. La feuille du haut glissa jusque devant la jeune femme, qui lut les ordres griffonnés dessus,
parmi lesquels les mots « extermination » et « élantrice » se détachaient.
« Regagnez votre chambre, sa reine. Le problème sera réglé d'ici quelques heures. »
Elle se rendit alors compte du tableau qu'elle présentait. Le visage rougi et bouffi par les larmes, la robe monochrome tachée de boue d'élantrice et de sueur, les mèches en bataille tenues dans un chignon qui menaçait ruine. Cet accès d'insécurité disparut lorsqu'elle toisa le roi et vit la satisfaction dans son regard. Il allait massacrer des affamés incapables de se défendre. Il allait tuer Esprit. Et tout cela à cause d'elle.
« Vous allez m'écouter, Yadon !» déclara-t-elle d'une voix glaciale.
Elle trouva son regard, ne le lâcha plus et se dressa de toute sa taille qui approchait les 6 pieds. Ainsi, elle le dominait d'une bonne tête.
« Vous allez retirer vos soldats d'Elantris. Vous allez laisser ses habitants en paix. Sinon, je raconte à qui voudra l'entendre tout ce que je sais de vous. »
Il eut un reniflement de dédain.
« Un geste de défi, Yadon ? » demanda-t-elle. « Vous risquez de le regretter quand tout le monde connaîtra la vérité. On vous prend déjà pour un imbécile. On feint l'obéissance, mais vous savez, au fond de votre cœur, qu'on se moque de vous. Vous croyez que les gens n'étaient pas au courant pour vos navires perdus ? Vous croyez qu'ils ne riaient pas de leur roi qui serait bientôt aussi pauvre qu'un baron ? Ils savaient. Et vous, Yadon, vous pourrez les regarder en face quand ils sauront aussi comment vous vous êtes sortis de ce mauvais pas ? Quand je leur aurais dit que c'est moi qui ai préservé vos revenus, moi qui vous ai obtenu les contrats du Théode, moi qui ai sauvé votre couronne ?»
Elle ponctuait ses questions en lui enfonçant son index dans la poitrine. La sueur perla au front du monarque dont la superbe se fissurait sous le poids du regard inflexible de la jeune femme.
« Vous êtes idiot, Yadon, » reprit-elle. « Je le sais, vos nobles le savent, le monde entier le sait. » Ce fier pays, vous l'avez peuplé d'esclaves, privé d'honneur et appauvri. Malgré votre cupidité, même vous, le souverain, vous êtes si indigent qu'il vous a fallu un cadeau du Théode pour garder votre couronne. »
Il recula, troublé, et parut se tasser sur lui-même.
« Imaginez le qu'en dira-t-on, souffla-t-elle. Si votre cour apprend que vous devez votre trône à une femme, une jeune péronnelle, tout le monde vous verra pour ce que vous êtes. » Un incapable aussi banal que timoré.
Il se laissa choir dans son siège. Elle lui tendit une plume.
« Annulez le décret » exigea-t-elle.
Les doigts tremblants, il gribouilla un contre-ordre au bas de la page et y apposa son sceau personnel. Sa reine lui arracha la feuille et sortit de la pièce à grands pas.
« Haché, arrête ces soldats. Dis-leur que de nouveaux ordres suivent. »
« Oui, madame. »
Le Séon fila le long du couloir vers une fenêtre, plus vite qu'un cheval au galop.
« Vous !»
Elle plaqua le papier contre le plastron d'un des gardes.
« Apportez ça à Elantris !»
Il accepta la feuille d'un air hésitant.
« Et vite !»
Il partit en courant. Elle croisa les bras pour le regarder s'éloigner, puis elle se tourna vers l'autre garde qui s'agita.
« Je vais m'assurer qu'il y arrive »
bredouilla-t-il avant de s'élancer dans le sillage de son compagnon. La jeune femme resta là un bref instant, puis se tourna vers le bureau pour fermer la porte. Elle emporta avec elle la vision de Yadon, affalée dans son fauteuil, les coudes sur sa table et la tête dans ses mains. Le roi sanglotait sans bruit. Le temps que sa reine atteigne Elantris, les nouveaux ordres étaient arrivés depuis longtemps. Les gardes personnels de Yadon, un peu perdus, erraient devant le portail. Lorsqu'elle voulut les renvoyer, leur capitaine refusa, sous prétexte qu'il avait reçu le contre-ordre concernant l'attaque, mais pas l'ordre de regagner leur caserne, ordre qu'un messager lui apporta quelques instants plus tard. L'officier jeta un regard torve à la jeune femme, puis ramena ses hommes au palais. Elle s'attarda quelque peu et effectua la pénible ascension jusqu'au chemin de ronde. La charrette gisait sur le flanc au centre de l'esplanade. Une ligne de caisses brisées s'étendait vers le centre de la cité. Il y avait aussi des corps par terre, des assaillants dont les cadavres pourrissaient dans la boue. Sa reine se figea, glacée. Un des cadavres bougeait encore. Elle se pencha sur la balustrade. Malgré la distance, elle vit distinctement les jambes de l'homme, à 4 bons mètres de son torse. Un terrible coup d'épée l'avait tranché en 2 au niveau de la taille. Personne ne pouvait survivre à pareille blessure. Mais de temps à autre, il tendait les mains vers le ciel et agitait les bras.
Domu miséricordieux,
murmura-t-elle, en portant une main à son petit pendentif Corati. Elle parcourut l'esplanade d'un regard incrédule. D'autres cadavres paraissaient bouger malgré d'horribles blessures.
Ils disent que les Élantriens sont morts. Qu'ils sont morts, mais que leur esprit continue de fonctionner.
Elle comprit pourquoi ces gens survivaient sans nourriture.
Ils n'avaient pas besoin de manger.
Mais alors, pourquoi mangeaient-ils? La jeune femme secouait la tête pour chasser la confusion qui l'envahissait et l'image de ces cadavres qui remuaient. Quand elle aperçut, agenouillée au pied du grand mur dans une posture qui trahissait un chagrin indicible, une silhouette. Elle se sentit attirée dans sa direction, et elle suivit le chemin de ronde, la main effleurant la balustrade, jusqu'à se trouver juste au-dessus de la personne. Elle savait d'instinct qu'il s'agissait d'esprit. Il étreignait dans ses bras un corps qu'il berçait, la tête inclinée. De toute évidence, même un tyran pouvait aimer un de ses partisans.
« Je vous ai sauvé, esprit. Le roi vous aurait détruit, et je vous ai sauvé la vie. Je ne l'ai pas fait pour vous. Je l'ai fait pour tous ces pauvres gens sous votre férule. »
Tout à son chagrin, il n'avait pas remarqué sa présence en haut du mur. Elle s'efforça de rester fâchée après lui. Mais à le regarder et à deviner sa souffrance, elle ne pouvait pas se mentir. Les événements de la journée la troublaient pour plusieurs motifs. Elle était furieuse de voir ses plans échouer. Elle regrettait de ne plus pouvoir nourrir ses Élantriens si mal en point, et elle déplorait la manière dont l'aristocratie allait continuer de voir Élantris. Mais ce qui l'attristait au fond, c'était qu'elle ne le verrait plus, lui. Tyran ou pas, il semblait avoir bon fond. Peut-être fallait-il un tyran à cette cité, et constituait-il le meilleur choix offert à ces gens. En tout cas, elle ne reverrait sans doute jamais ses yeux, qui, dans ce corps émacié, semblait pourtant plein de vie. Elle aurait aimé pouvoir percer leur complexité. Mais c'était fini. Elle gagna l'unique refuge qu'elle connaissait à Caë. Ki-In lui ouvrit la porte, puis ses bras. C'était une façon tout à fait humiliante de terminer une journée aussi chargée d'émotions. Mais l'étreinte en valait la peine. Elle avait décidé toute petite qu'il n'y avait pas mieux que son oncle pour l'étreindre. Ses bras épais et son torse énorme suffisaient à envelopper même une fille trop grande et trop dégingandée. Elle finit par le lâcher en s'essuyant les yeux, déçue d'être repartie à pleurer. Il se contenta de poser une main sur son épaule et de la guider vers la salle à manger où le reste de la famille, y compris Adienne, se trouvait autour de la table. Luquel, qui parlait avec animation, s'interrompit à la vue de sa cousine. « Quand on parle du lion, » dit-il, en citant un proverbe jindoé. « Il vient se restaurer. » Adienne tourna vers elle son regard hanté.
« Il y a 672 pas d'ici à Élantris, »
chuchota-t-il. Un bref silence suivit. Puis, Caïzé se dressa sur sa chaise.
« Sarène, c'est vrai qu'ils ont essayé de te manger ?»«
Non, Caïzé, » dit la jeune femme en prenant un siège. Il voulait simplement un peu de la nourriture qu'on avait. « Caïzé, laisse ta cousine tranquille, » ordonna Daora. « Elle a passé une rude journée. »«
Et je n'y étais pas !»
ronchonna Caïzé en se rasseyant. La petite fille se tourna vers son frère.
« Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu tombes malade ?»«
Je ne l'ai pas fait exprès !»
protesta Daorn, encore pâle. Il paraissait supporter d'avoir manqué la bataille.
Chut, les enfants, dit Daora.
Ce n'est pas grave, dit Sarène. Je peux en parler. Alors, demanda Luquel, c'est vrai ce qu'on raconte?
Oui, quelques Élantriens nous ont attaqués, mais personne n'a été blessé, du moins de notre côté.
Non, je voulais dire, pour le roi. C'est vrai que tu l'as persuadé de changer d'avis à force de lui hurler dessus?
Elle sentit son estomac se nouer.
« Ça se sait ?»«
On t'a entendu jusque dans la salle du trône, à ce qu'il paraît. » Le jeune homme rit de bon cœur. « Yadon n'aurait toujours pas quitté son bureau. »«
Je me suis peut-être laissé emporter. »« Vous avez bien fait, ma chère, » dit Daora. « Yadon a bien trop l'habitude que la cour lui obéisse au doigt et à l'œil. Il a dû se trouver bien embarrassé de voir quelqu'un lui résister. » « Ce n'était pas bien dur,
Derrière ces fanfaronnades, il y a beaucoup de doutes. Comme chez la plupart des hommes, ma chère.
Ah, ma cousine,
dit Luquel avec un clin d'œil. Qu'est-ce que nous serions devenus sans toi?
La vie était si morne par ici avant que tu ne décides de venir tout compliquer.
J'aurais de beaucoup préféré qu'elle le reste, marmonna la jeune femme. Yadon va très mal réagir une fois qu'il aura recouvré son aplomb.
Il te suffira de lui crier dessus une fois de plus.
Non, répliqua Kiin d'un ton grave.
Elle a raison. Un monarque ne peut pas se permettre de se laisser réprimander en public. Cette affaire risque de nous desservir au bout du compte.
Sauf s'il décide d'abdiquer en faveur de sa reine.
Luquel gloussa.
Je constate que les craintes de votre père se réalisent,
commenta Haché de sa voix de basse en entrant par la fenêtre.
En effet, la Rélone n'est pas de taille face à vous, madame.
La jeune femme eut un pâle sourire. Ils sont repartis? Elle avait prié le Séon de suivre les gardes de Yadon, au cas où il déciderait d'ignorer les ordres reçus.
Oui, répondit-il. Le capitaine est allé tout droit voir le roi qui a refusé de le recevoir.
Il ne faut pas qu'un soldat voie Sa Majesté le roi pleurer comme un mioche, dit Luquel.
En tout cas, reprit le Séon, j'ai...
On frappa à la porte avec insistance. Il s'interrompit. Kiin alla ouvrir et revint flanqué d'un Shuden tout excité. Il s'inclina devant la princesse.
« Madame. »
Ensuite, il se tourna vers Luquel. « J'ai appris une nouvelle fascinante. »«
Tout est vrai, ma cousine nous l'a confirmé. »
Le jeune Jindoé secoua la tête.
« Je ne parle pas de ça. »
Sa reine, prise d'inquiétude, haussa les sourcils.
« Qu'est-ce qu'il a encore pu se passer aujourd'hui ?»
Shuden la dévisagea, les yeux pétillants de malice.
« Vous ne devinerez jamais qui a succombé au Shaod cette nuit. »